Bonjour pour ce 33e numéro de Confinez-vous à nous. Nous avons joint par téléphone mercredi dernier Fabrice David, secrétaire de l'Union départementale CGT de la Loire-Atlantique. Que signifie cette journée du 1er mai pour les militants de la CGT ?
C'est toujours une journée importante pour nous. C'est la date de manifestation qui a lieu tous les ans, la journée internationale de lutte des travailleurs. Donc un moment important pour tout le mouvement social, pour réaffirmer nos revendications et nos solidarités internationales, et que tous les salariés du monde sont dans le même bateau face à un capitalisme mondialisé aujourd'hui qui fait des ravages partout.
C'est une journée internationale et fériée. Donc ça devrait mobiliser les travailleurs et les travailleuses. Ce n'est pas forcément le cas.
Le 1er mai est toujours un moment où c'est essentiellement les militants qui se mobilisent. Cette année, on est en plus en période de confinement, donc effectivement, ça va être compliqué. On ne pourra évidemment pas faire de manifestations physiques cette année. Pour autant, les militants sont attachés à pouvoir célébrer dignement ce 1er mai et par des diverses actions. Notamment, on a prévu pas mal de vidéos qui vont tourner sur les réseaux sociaux de militants qui se photographient avec des slogans, parce qu'on a beaucoup de revendications à porter, particulièrement dans cette période. Et puis, il y aura des affichages, pour ceux qui le souhaitent, hein, de drapeaux, de banderoles, avec des revendications sur les balcons, sur les clôtures de jardins, enfin voilà, un peu partout chez soi, quoi.
J'ai pas trop compris, la CGT a décidé d'avoir un autre type d'action par rapport à la FSU et Solidaire.
Non, pas du tout, non. Il y a un communiqué de la FSU Solidaire et de la CGT ensemble qui signe donc un appel à justement avoir des initiatives du coup un peu particulières dans la période, parce que on ne peut pas faire autrement, enfin on ne peut pas manifester physiquement, mais on a bien un appel commun de nos trois organisations à faire du 1er mai un moment important.
Oui, j'ai compris qu'il y avait un appel commun, mais c'était au niveau des actions.
Non, on n'a pas décidé ensemble parce que les initiatives étaient déjà un peu parties, parce que là en fait ça s'organise difficilement quand même, puisque comme on ne se voit pas non plus, on arrive à évidemment s'appeler, mais c'est compliqué de caler des choses collectives dans la période. Donc après, c'est vrai que chacune de nos organisations a organisé ses propres initiatives. Pour autant, on a souhaité vraiment faire un communiqué commun pour réaffirmer qu'on est toujours bien ensemble dans ce combat, dans les nombreux combats qu'on a menés dans la période. On avait réfléchi à l'idée d'une affiche commune éventuellement, mais qu'on n'a pas menée à terme. Effectivement, c'est un peu difficile de faire des choses communes, d'autant plus qu'on ne peut vraiment pas se rassembler physiquement. Et même si on pouvait avoir des mini-rassemblements de 3 ou 4 personnes, voilà, ça serait pas suffisamment parlant pour faire écho de toute manière, quoi. En tout cas, si c'est la question était, est-ce qu'on a des problèmes ensemble, on s'entend pas, non, c'est pas du tout ça. On est toujours bien en phase, il n'y a pas de lézard là-dessus. Après, je dis, c'est vraiment une question un peu pratique là, de cette période de confinement qui fait que on n'a rien pu décider de faire ensemble, quoi, hein, voilà, à part se communiquer.
C'est très compliqué en fait de mobiliser en période de confinement. C'est-à-dire que vous êtes quasiment obligé de rester chez vous, peu de sorties et puis peu de rencontres physiques, même distantes, avec les militants, d'autres partenaires.
C'est tout à fait ça. On passe énormément de temps au téléphone, hein, en réunion, en visioconférence ou aux réunions téléphonées. On en fait beaucoup, beaucoup. Mais ça ne remplace pas, hein, évidemment, les rencontres plutôt physiques, où c'est du coup plus productif, plus facile d'avoir des débats interactifs. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on essaye de faire au mieux. On passe beaucoup de coups de téléphone, soit en bilatéral, soit en collectif, pour essayer de continuer à mener une activité quand même syndicale importante. Et nous, en tant qu'Union départementale, on est surtout très attentifs à ce qui se passe dans les entreprises et les administrations. Et donc, on a des contacts permanents avec nos camarades dans les boîtes pour voir comment se passe, qu'est-ce qui se passe dans la situation, sur les conditions sanitaires. Est-ce que les gestes barrières de protection des salariés sont bien respectés? Est-ce qu'on peut pousser à la fermeture d'entreprises qu'on ne considère pas, nous, comme essentielles à la gestion de la crise et la santé primant sur l'économie? On pousse à ce que, quand on n'a pas de possibilité de protection suffisante, enfin quand il y a des doutes, hein, par précaution, qu'on ferme l'entreprise ou l'administration pour protéger les salariés et puis les personnes qui pourraient être en contact avec cette entreprise ou l'administration, les clients, les publics, les citoyens. Voilà. C'est vrai que c'est un travail qui est très très compliqué. On attend tous, je pense comme tout le monde, de toute façon une reprise normale d'activité. Parce que voilà, notre façon de faire à nous est d'aller au contact avec les salariés, de discuter avec eux pour justement construire des revendications et répondre à leurs besoins. Donc voilà, on attend ça évidemment avec impatience pour pouvoir retrouver cette activité normale.
Les salariés, s'ils se sentent en danger d'un point de vue sanitaire, il peut exercer son droit de retrait ou il subit un peu la pression de son employeur?
Il subit très clairement la pression de son employeur, puisque en plus l'employeur a la complicité du gouvernement, donc qui n'arrête pas d'insister, qui a un discours très cacophonique sur la nécessité du confinement absolu, avec y compris une répression accrue pour tous ceux qui ne respecteraient pas le confinement. Tous les citoyens en tant que tels prennent quand même pas mal d'amendes s'ils sont contrevenus en fait aux règles de confinement. Ceci dit, c'est une bonne chose. On pense que le confinement est important parce que les scientifiques nous le disent, que c'est la meilleure barrière en fait à la propagation du virus, c'est d'être confiné, et qu'on ne comprend pas que de l'autre côté, on continue à pilonner le fait que les entreprises doivent absolument fonctionner pour l'économie sur des secteurs qui ne sont pas essentiels. On met en tas des centaines de salariés d'un côté et de l'autre, on nous dit restez chacun chez vous, interdit y compris d'aller faire un tour sur la plage. Donc voilà la cacophonie pour nous du gouvernement. Donc les employeurs, je veux dire, ont effectivement l'aval du gouvernement qui les appuie, et nous, toutes nos démarches qu'on a pu faire auprès des instances d'État sur le territoire départemental, on fait chou blanc, puisque le discours, il est toujours reprise d'activité, quoi qu'il en coûte, quasiment, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, on continue malgré tout à insister là-dessus, mais les salariés peuvent être mis en danger, et sur le droit de retrait notamment, on a eu quelques cas effectivement où le droit de retrait n'est pas considéré comme légal dans certains cas, considérant que, comme le gouvernement dit qu'il faut retourner au travail absolument, le droit de retrait n'est pas toujours accepté.
Et c'est compliqué de lancer un mot d'ordre de grève dans ces conditions aussi.
Alors, quelques-unes de nos fédérations CGT au niveau national ont fait des appels à la grève, qui ont été d'ailleurs très critiqués dans les médias et par le gouvernement. Rappelons que ces appels à la grève ne sont évidemment pas des appels à faire une grève classiquement, voilà, avec manifestation et tout ça. C'était un appel à la grève pour protéger justement les salariés dont le droit de retrait serait refusé par les employeurs, et que les salariés n'aient pas l'obligation de faire le choix entre leur vie et leur travail. Donc la seule protection juridique qui nous restait sous le coude après les annulations les interdictions de droit de retrait, c'était justement le droit de grève, que le salarié, si vraiment il considère qu'il est en danger grave et imminent, il puisse décider de se mettre en grève et donc de rester chez lui, même si évidemment ça a des conséquences majeures pour lui, puisque c'est du salaire qui n'est pas payé. Mais voilà, on en est arrivé là malheureusement parce que le gouvernement n'a pas pris suffisamment ses responsabilités et a tenu un discours complètement incohérent.
Pour réagir donc aux annonces gouvernementales, il faudra adapter ces mesures en fonction de la situation sanitaire au niveau du département. Comment ça se passe au niveau d'une organisation syndicale? On peut avoir des mesures différentes département par département? On peut prendre ça en compte ou il y a un mot d'ordre unitaire pour en dire non, c'est tout le monde ou personne?
Il y a des différences de circulation de virus d'une région à l'autre, donc évidemment il faut prendre tout ça en compte. Nous, notre position à la CGT, elle est de dire on n'est pas des médecins et qu'il y a des conseils médicaux qui se réunissent et qui peuvent avoir une expertise fiable. Il faut se référer aux conseils des scientifiques. Et du coup, si les scientifiques considèrent que dans certains endroits, on peut déconfiner sans crainte pour la santé, il faut le faire. Si dans d'autres endroits, ils disent qu'il faut continuer à être confiné, il faut continuer à le faire également. Donc, on est vraiment à s'appuyer sur l'avis des médecins, ce que ne fait pas a priori le gouvernement, puisque son conseil scientifique, il l'utilise comme bon lui semble, puisque le conseil scientifique, notamment, n'était pas favorable à la réouverture des écoles à partir du 11 mai. Donc, le gouvernement joue avec ça, en fait. Il dit des fois, on prend l'avis des scientifiques, mais en fait, ils ne prennent que l'avis des scientifiques, mais ils ne l'appliquent pas forcément. Et nous, on est plutôt pour une application stricte de ce que nous disent les scientifiques pour éviter qu'on ait une nouvelle vague épidémique, puisque le déconfinement, c'est ça que ça nous fait craindre aussi derrière, c'est que comme très peu de personnes ont été finalement contaminées, la population n'est pas du tout immunisée et qu'on s'attend à une deuxième vague qui pourrait être malheureusement encore plus meurtrière que la première. Donc pour nous, on est vraiment sur la logique, si les médecins demandent le confinement, il faut rester confiné et que la question économique est évidemment importante et primordiale, mais la santé surtout doit être la priorité absolue pour tout le monde d'abord. C'est ça qui compte dans la période.
Quand on parle de la deuxième vague, là, on est dans l'idée qu'il y a un certain nombre de mesures sanitaires qui sont prises. Et en fonction des zones géographiques, en fonction de la menace qui pèse par le virus, on va plus ou moins déconfiner. Donc dans les entreprises, on va demander à ce qu'il y ait une distance entre les salariés, port du masque, dans les transports, que sais-je, quoi. Donc...
C'est sûr que du coup, on gérera sans doute mieux la deuxième vague éventuelle que la première, puisqu'on a été du coup un peu surpris sans doute par la première. Reste que dans un certain nombre d'entreprises, notamment la question des distances d'un mètre ne sont pas possibles, hein, parce qu'il y a certains ateliers qui ne permettent pas ça tout simplement. Nous, on s'inquiète également sur la reprise de l'école. Était-il nécessaire de reprendre l'école dans des façons, là aussi, un peu compliquées en plus à gérer pour bon nombre de communes et d'écoles avec des questions de 15 élèves par classe, c'est-à-dire des roulements, comment ça va s'organiser, comme ça se passe sur du volontariat également, que feront les enfants dont les parents ne souhaitent pas qu'ils aillent à l'école? Que se passera-t-il pour eux en termes de cours? Est-ce que les profs, du coup, seront obligés d'avoir à la fois d'enseigner à la fois en présentiel et à la fois en travail à distance, ce qui va évidemment multiplier leur temps de travail de façon assez importante? Et puis, on s'interroge quand même sur la question de ces tranches d'âge qui a changé par rapport aux déclarations de M. Blanquer, hein, sur la reprise progressive dans les écoles. On se rend compte que là, en fait, le seuil est un seuil d'âge qui est pris en compte finalement. Hein, c'est que les enfants de moins de 14 ans qui reprennent le chemin des classes. Tous les autres, c'est remis à mi-mai, fin mai. Donc, on s'interroge quand même derrière tout ça. Est-ce que la volonté du gouvernement n'est pas plutôt que de faire reprendre les cours, ça serait plutôt de faire reprendre les parents au travail qui étaient forcément bloqués par leurs enfants aussi à garder dans la période, et que justement cet âge de 14 ans, on peut estimer qu'au-delà de 14 ans, les enfants peuvent se garder un peu tout seuls, ce qui n'est pas le cas des moins de 14 ans. Et donc on sent quand même que derrière, c'est avant tout la reprise économique et que toutes les autres considérations sont un peu mises de côté par le gouvernement. C'est surtout l'économie qu'il faut sauver, quoi.
Habituellement, le 1er mai, il y a des prises de parole. C'est un moment important, là il n'y en aura pas, donc c'est simplement un communiqué de presse et puis des échanges donc de mails ou de vidéos.
Les slogans, les revendications vont être portées par le biais des vidéos. Effectivement, il n'y aura pas de discours comme habituellement, encore que l'Union locale CGT de Saint-Nazaire, par exemple, organise un live sur un direct donc sur les réseaux sociaux, hein, pour que les gens puissent se connecter, et donc où ils vont déclamer un discours à 11h le 1er mai, donc il faudra se connecter sur la page de Facebook de l'Union locale CGT de Saint-Nazaire. Ça, c'est un type d'action, mais aussi il y a toutes les vidéos dont je parlais tout à l'heure qui vont permettre aussi de porter un certain nombre de revendications avec des photos de militants qui portent des slogans. Alors, ça ne sera pas un discours chiadé, effectivement, comme habituellement, et complet, mais au moins, on aura les grandes revendications qui vont ressortir. Mais ça nous attriste tous, hein, de ne pas pouvoir faire comme d'habitude. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Là aussi, la santé prime et il n'est pas question qu'on se rassemble dans ces périodes-là.
Merci à Fabrice David, secrétaire de l'Union départementale CGT de la Loire-Atlantique, pour sa libre participation à ce 33e numéro de Confinez-vous à nous.
Notre confédération aussi recense les photos, enfin appelle à envoyer des photos avec le hashtag 1 mai CGT, pour faire voir qu'il y a une mobilisation quand même qui se passe, même si elle se passe de chez soi. Malgré tout, on est toujours déterminé, confiné mais mobilisé, comme on dit, hein, pour continuer, et qu'on prépare d'ores et déjà, nous, fortement l'après-confinement, parce que le gouvernement aura à la fois des comptes à rendre, et puis il est grand temps de changer ce monde tel qu'il était organisé aujourd'hui, puisque la crise du Covid-19 a vraiment mis en avant toute la nocivité du système capitaliste aujourd'hui et des politiques néolibérales qui ont été menées ces dernières décennies, particulièrement sur la question de la santé publique avec une réduction drastique de l'offre de soins ces dernières années et qui nous a mis en situation difficile sur cette crise. Et les politiques doivent se poursuivre normalement. C'est idem pour la réforme des retraites qui est seulement suspendue mais n'est pas annulée, dont on demande l'annulation complète. Mais c'est toutes ces politiques-là qui détricotent complètement à la fois notre système de protection sociale, nos services publics et qui nous mettent en danger. C'est quand l'argent prime sur la réponse aux besoins des populations, on en arrive à des situations comme celle-ci.